Pierre Picard, bonjour.
Bonjour, bonjour également à tous nos amis de la région et à nos amis auditeurs.
Alors, en termes de géopolitique mondiale, nous sommes à un tournant décisif entre l'Amérique et la Chine.
Oui, totalement. Alors, il est vrai qu'au niveau des analyses macroéconomiques mondiales et des analyses géopolitiques que nous pouvons faire aujourd'hui sur déjà sur l'état du monde, mais également les très grandes mutations qui sont en train de se produire, et d'ailleurs dans tous les domaines, au niveau économique, financier et culturel, et bien d'autres facteurs, on assiste à un basculement profond. C'est un mouvement historique sans précédent depuis plusieurs millénaires, c'est-à-dire un basculement des forces, de l'Ouest à l'Est, ou de l'Occident à l'Orient, et globalement, pour schématiser quelques grandes nations, on pourrait dire de l'Amérique à l'Europe, vers l'Asie et la Chine. Donc oui, ces quelques années sont des années charnières qui vont marquer notre devenir, même si en cette période de crise économique et financière qui n'en finit pas, on peut penser que l'Europe devrait s'en sortir et mieux se structurer dans les années à venir, et que les États-Unis vont perdre d'une façon définitive leur prédominance économique, militaire, financière, et donc avec une crise encore à venir qui va être, selon mes analyses, très importante au niveau, au regard de la population américaine, une crise qui n'en est, selon mon point de vue, qu'à ses débuts.
Alors la Chine dans 20 ans aura à faire face à des défis majeurs si elle veut transformer et consolider ce bel essai.
Oui, alors bien sûr les défis majeurs nous concernent tous, mais ils concernent particulièrement bien évidemment la Chine. Alors dans mon ouvrage n'est pas un ouvrage d'anticipation, hein, c'est pas un ouvrage futuriste, je ne fais pas profession de médium, il s'agit d'éléments d'analyse qui sont prises, qui sont considérées, qui ont été confrontées, et je n'ai fait finalement que de constater ou de prolonger d'une façon très légère les tendances, quelles qu'elles soient, qui sont actuellement mises en place. Donc pour revenir, Françoise, à votre question, les défis de la Chine sont à la hauteur, d'une part, de sa croissance économique extraordinaire, mais également au regard de cette nation cinq fois millénaire qui est la plus peuplée du monde et qui est constituée par un immense territoire avec finalement des mutations, pas uniquement au niveau économique, mais au niveau culturel, au niveau social, au niveau politique, au niveau environnemental, et c'est une Chine qui bouge, je dirais, tous les deux mois, comme me le disent mes amis chinois qui en parlent. Et puis, bien sûr, il y a d'autres problèmes dont nous pourrions parler aujourd'hui, l'agriculture, les biotechnologies, les minorités ethniques, bon, tout ce qui fait que ce pays qui sera bien avant, selon moi, 2020, la première puissance mondiale, et bien avant 2030, la superpuissance mondiale, ce pays va avoir un rôle déterminant à jouer au niveau planétaire. Et selon moi, la Chine va dessiner un nouveau modèle qui ne sera pas comparable à ce que les pays européens sont ou ont pu être auparavant, ni même au regard des États-Unis d'Amérique qui se sont affirmés comme la grande puissance mondiale après la chute du mur de Berlin. Non, la Chine a une vision beaucoup plus pragmatique, elle a une vision multipolaire, et y compris avec, je dirais, ses intérêts bien compris, pour reprendre la formule, la Chine n'a pas une stratégie de guerre, d'invasion, de conquête, d'autant plus, on pourrait dire déjà qu'elle dispose de la plus grande diaspora et de la plus riche diaspora dans le monde. Non, la Chine va devoir faire face déjà à affirmer une diplomatie multilatérale, des éléments sur lesquels on ne la voyait guère auparavant, puisque globalement la Chine s'occupait un petit peu de son voisinage et s'occupait finalement à être préservée dans l'intégralité de son territoire. Elle se préoccupait également d'avoir des rapports, je dirais, de stabilité avec son voisinage, donc une politique finalement bilatérale. Aujourd'hui, la Chine s'affirme sur tous les terrains et dans le monde entier avec une politique multilatérale. On voit maintenant des responsables et des dirigeants chinois dans la plupart des organismes internationaux et la Chine joue un rôle majeur dans la résolution ou la non-résolution de grands conflits actuels comme notamment en Iran, comme notamment au Moyen-Orient et dans d'autres zones où il y a de grandes tensions. Elle participe également, puisque nous avons abordé un peu cette thématique internationale, elle participe maintenant activement à des opérations de maintien de paix avec les casques bleus dans le monde. Donc on voit bien que c'est pas uniquement la Chine qui forme un nouveau modèle pour elle-même, mais pour le monde entier. Nous voyons une Chine qui s'ouvre au monde entier et qui se dote de moyens, y compris culturels avec les instituts Confucius, qui se donne les moyens effectivement d'avoir une présence internationale qui joue et jouera encore davantage et demain un rôle de plus en plus important. Et il faut noter aussi que la Chine donnera certainement une place, je dirais, un peu plus grande à la modération. On le voit dans ses prises de position, et une place plus importante aux pays du tiers-monde ou aux autres pays en développement. Donc je pense que la Chine aura une position plus équilibrée et que les grands blocs qui vont substituer, hein, comme l'Europe, les États-Unis, des grandes nations comme le Brésil et bien d'autres, auront demain non plus à négocier uniquement avec un ou deux partenaires, et on le voit en Afrique notamment, mais auront également, selon mon point de vue, en bénéfice, auront également la Chine comme partenaire. On le voit notamment en Afrique, parce que le fait que la Chine soit présente sur ce précaré qui était auparavant un terrain conquis des industriels ou des hommes politiques américains ou européens. Aujourd'hui, eh bien effectivement, ça fait monter la surenchère des matières premières, notamment dans cette zone. Et clairement, ça bénéficie au peuple africain qui sera un continent qui va décoller fortement dans les quelques années à venir.
Mais alors, quelle est aujourd'hui la réelle puissance financière de la Chine ?
Alors, la Chine, tout d'abord, c'est la nation qui a les plus grandes réserves financières mondiales, en tout cas déclarées, parce qu'on peut imaginer que, au-delà des chiffres qui sont annoncés dans mon ouvrage, on a effectivement une puissance considérable financière. Il y a du fait que la Chine est autonome avec la Banque centrale de Chine, du fait que les régions, pour certaines endettées, mais également riches, du fait de la richesse également des entreprises d'État chinoises, des conglomérats chinois, des entreprises privées chinoises, de tous ces milliardaires chinois qui naissent pratiquement aux millionnaires, des milliers, des centaines de milliers. On a une Chine qui est vraiment en capacité de pouvoir investir et, je dirais, de reconquérir son territoire, notamment, je pense, à la conquête de l'ouest de la Chine, aux portes de Chongqing, mais qui est en capacité également d'investir en diversifiant ses activités industrielles, dans les services, dans l'agriculture, dans la recherche, à l'étranger, c'est-à-dire dans tous les pays du monde, avec une capacité également pour la Chine aujourd'hui de délocaliser des productions qui sont moins rentables chez elle, ou même de faire fabriquer des produits, des services à l'étranger. La Chine, par exemple, achète des terrains entiers, des régions entières dans tous les pays du monde. Elle investit en Allemagne, elle investit en France, elle crée des zones industrielles. Elle est vraiment présente partout. Donc cette richesse chinoise et d'ailleurs certains Chinois ne sont pas totalement d'accord avec cela, elle n'est pas uniquement destinée aujourd'hui au développement de la Chine, même si c'est la priorité, parce qu'il y a encore bien évidemment des problèmes en Chine, mais elle est également destinée à renforcer les investissements directs ou indirects de la Chine à l'étranger. Alors, bien évidemment, en Chine, quelles sont aujourd'hui les problématiques ? Alors, les problématiques évoluent parce que la Chine avance très vite, et ce qui était vrai il y a un an ne l'est plus aujourd'hui. Cependant, il existe bien évidemment, même si le pouvoir d'achat des Chinois s'est considérablement accru. Je vois les paysans du Guangxi qui n'avaient rien, qui ont aujourd'hui leur petite voiture, leur moto, leur maison. Donc il y a vraiment un changement radical par rapport à il y a 10 années. Mais ceci dit, il y a quand même des disparités bien évidentes entre, je dirais, les salaires des magnats de Shanghai ou de grandes villes, de propriétaires qui ont réussi dans la bourse ou l'immobilier, et puis, je dirais, les Chinois. Néanmoins, malgré ces fortes disparités entre les zones de l'Ouest, entre les campagnes et le centre-ville, on a l'émergence d'une classe moyenne de plus en plus importante en Chine. Difficile de l'évaluer. Quand on dit classe moyenne, on a le débat en France. Est-ce que c'est à partir de 4 000 euros chez nous ? Est-ce que c'est à partir de, on va dire, de 1 000 euros chez eux ou de 10 000 yuan ? Ceci dit, la classe moyenne s'agrandit considérablement. Et je dirais que même la petite classe moyenne, celle qui n'avait pas des sous pour se prendre un taxi, prendre un long bus, faire un voyage d'une ville à une autre, aujourd'hui, elle commence à vivre très bien. Parce qu'effectivement, au niveau national, grâce à la planification, ce qui n'est pas du tout un défaut, la Chine a su construire, dans un état de stabilité et de droit globalement, elle a su construire finalement elle a su orienter dans différents domaines tels que l'éducation, les sciences, la technologie, l'industrie et même aujourd'hui l'environnement. Elle a su construire, fonder, mettre des bases solides pour le développement de son pays. Alors, premier problème, il est important, c'est donc éviter qu'il y ait un trop grand écart entre les petits revenus et les grands revenus. Mais comme je le disais, il faut rappeler qu'il y a 10 ans, c'était la majorité, ou 20 ans, c'était la majorité des Chinois qui crevaient de faim, donc qui n'avaient rien, qui ne pouvaient même pas aller chez le dentiste ou se faire soigner. Aujourd'hui, ça change considérablement. Autre problème, c'est la disparité entre les régions elles-mêmes, qui se font concurrence, puisque aujourd'hui, le nouveau plan quinquennal prévoit justement de porter une attention particulière sur ces problèmes et demande au gouverneur de ne pas se positionner dans une concurrence territoriale qui nuirait aux intérêts de leur région et de la Chine elle-même. Autrement dit, le gouvernement chinois a demandé aux provinces de diversifier leurs activités, mais dans des secteurs sur lesquels ils ne vont pas se faire trop de concurrence. Autrement dit, pour ne citer qu'un petit exemple, c'est pas la peine de créer une grande zone dédiée à l'horticulture ou une grande zone dédiée à l'énergie solaire dans telle province et puis dans telle autre province, autant que chaque province ait des particularités, des spécificités qui vont, en fonction des moyens humains, des moyens financiers, qui vont les rendre plus fortes et finalement favoriser la croissance en général. Un autre problème concerne bien évidemment l'environnement, puisqu'on en a beaucoup parlé. La Chine, comme tout pays en développement, a besoin de pétrole, elle a besoin de matières premières et en même temps c'est tout à fait naturel. On ne va pas reprocher à un Africain, un Chinois ou un Indien de vouloir avoir le confort que nous on a acquis auparavant. Et donc c'est un petit peu pas bien, je dirais, de leur faire la morale, même si en même temps c'est l'écologie est une priorité pour nous tous sur la planète. Alors, il faut savoir que depuis 5 ans, les Chinois ont pris conscience que, au regard de leur culture, mais également au regard de la réalité, c'est-à-dire de la pollution, des problèmes qu'ils avaient, qu'il fallait effectivement avoir un programme tout à fait audacieux à l'échelle de l'ensemble du territoire, dans tous les domaines relatifs à, je dirais, à l'écologie en général. Alors, c'est bien sûr la biodiversité, c'est bien sûr la protection des espèces végétales et animales, quelles qu'elles soient. C'est également avoir une politique de précaution au regard des ressources naturelles utilisées. Il y a bien longtemps, bien avant les Français, que les Chinois n'utilisent plus les sacs en plastique, mais ont des sacs en papier en Chine. Ça ferait plaisir d'ailleurs aux écologistes français. Il y a un mouvement de fond en Chine au regard de l'écologie de l'environnement, même si, au niveau des éoliennes, au niveau de l'énergie solaire, qui est excessivement important. La sensibilisation du public est grande, des médias également, et des architectes, et je dirais des gens qui dirigent l'architecture future du pays.
Même s'ils développent quand même pas mal le nucléaire.
Oui, tout à fait. Alors là, ça commence à changer un petit peu parce que pour les Chinois, leur énergie était basée principalement sur le charbon. Et on sait que le charbon, qui est un élément naturel, est un élément également polluant. Donc les Chinois ont développé l'énergie hydroélectrique. Ils sont aujourd'hui les premiers producteurs mondiaux en hydroélectricité et ils développent d'une façon considérable tous au niveau des usines, au niveau des maisons individuelles, tous les apports qui peuvent être utilisés en énergie renouvelable. Autrement dit, l'eau, la mer, l'énergie du vent, l'énergie du soleil, etc. Donc ça, c'est vraiment présent dans de très nombreux bâtiments nouveaux chinois, où les architectes chinois et occidentaux, d'ailleurs, rivalisent de créativité. Et par rapport à l'énergie nucléaire, après Fukushima au Japon, eh bien, on a effectivement une prise de conscience qui existait déjà. Mais bon, la Chine est la Chine, et la Chine se découvre chaque jour dans cette croissance un peu, de folie. La Chine a pris conscience qu'il fallait encore plus que jamais s'orienter... parce que la Chine, en fait, avait très peu utiliser très peu l'énergie nucléaire. Mais bon, elle s'est dit, il faut se doter en tant que nation moderne de centrales nucléaires de nouvelle génération. Mais depuis donc l'accident de Fukushima, il y a une réflexion profonde qui était engagée. Les projets qui ont été en cours ont été stoppés pendant un moment pour réfléchir justement sur la qualité. Mais c'est vrai. C'est quand même un pas démocratique. Il y a une réflexion et aujourd'hui, il y a un débat national en Chine sur ce domaine qui est très ouvert d'ailleurs, hein, où tout le monde peut s'exprimer. Les choses ne sont pas résolues. Il y a, comme chez nous, les partisans du tout nucléaire, ou en tout cas pour une grande partie du nucléaire. Et puis, effectivement, il y a les partisans d'énergie douce. Alors, comment concilier avec la croissance chinoise et son besoin en croissance? Comment concilier les deux? On verra ce que les Chinois vont faire.
Alors, quelque chose de surprenant, c'est que la Chine achète des terres agricoles à l'étranger. Pourquoi?
Alors, si on regarde la géographie de la Chine, on s'aperçoit finalement que, bien évidemment, sa population est importante, mais sa population consomme de plus en plus. Et on voit bien que c'est la bande côtière du nord au sud qui nourrit la Chine. Et bien évidemment, malgré l'ingéniosité des paysans ou des entreprises agricoles, la Chine a besoin, au-delà de la rentabilité qu'elle peut engendrer au regard de ses terres agricoles, a besoin de terres supplémentaires. Il y a des grandes priorités pour les Chinois. Il faut effectivement qu'ils aient l'énergie et les matières premières, et aussi nourrir le peuple. Donc c'est la raison pour laquelle la Chine a acheté en Afrique, en Europe, mais également en Amérique latine, des quantités de terres très importantes, y compris au nord, en Russie, de façon à pouvoir cultiver ou produire elle-même ce dont elle a besoin.
Dans 20 ans, la Chine sera-t-elle un pays démocratique tel que nous l'entendons en Occident ?
Alors, tel que nous l'entendons, nous, aujourd'hui, je dirais non. Ceci dit, je pense que nous-mêmes, en Europe actuellement, nous assistons à un recul de la démocratie et nous devenons des démocraties imparfaites. Je crois que c'est clair, hein, la démocratie, donc, par rapport à de nombreux autres facteurs, montre que nos pays deviennent de moins en moins démocratiques. Parce que, bon, c'est ainsi. Par rapport à la Chine, par contre, il y a un mouvement vers la démocratie qui s'installe avec la stabilité à la fois du régime politique et l'évolution et la croissance du pays. Autrement dit, les Chinois, les dirigeants chinois ont voulu faire tout l'inverse de ce qui s'est passé lorsque l'ex-URSS a été éclaté. Donc oui, on aura une démocratie en Chine, on aura une démocratie à la chinoise, mais qui ne sera pas le copier-coller de démocratie qui reste, et je le dis encore, en France, comme aux États-Unis, comme ailleurs, qui reste des démocraties imparfaites. Je ne dis pas que c'est facile. On assiste actuellement, après les élections locales, dans les villages, un processus qui devrait engendrer et encourager profondément par le petit père des peuples, qui est le premier ministre chinois, qui va bientôt quitter son mandat. On assiste à une volonté d'installer des élections libres également dans les villes. Parce qu'en fait, les autorités politiques se sont rendues compte que puisque maintenant... Vous savez, les Chinois, ils testent sans arrêt. Et la Chine n'a jamais connu la démocratie. Donc, quand vous posez cette question aux Chinois, ils disent « Mais pourquoi faire ?» Et puis, c'est amusant chez vous, mais vous êtes toujours en train de vous disputer. Ou, voilà, nous, on ne comprend pas. On n'a qu'un objectif, c'est être heureux, bien être nourri, que nos enfants aillent à l'école, etc. Bon, néanmoins, les Chinois apprennent la démocratie. Et ils ont des débats de plus en plus à la télévision sur tous les sujets, pratiquement. Et on devrait avoir bientôt, effectivement, des élections locales, démocratiques. Pourquoi ? Parce que le gouvernement chinois s'est aperçu que ça marchait très bien au niveau, disons, des petits villages, et qu'une fois élus, les élus arrivaient justement à bien gérer la situation au niveau local, et ils se sont dit, bah, si les campagnes arrivent à bien se gérer, bah pourquoi pas les villes. Donc c'est un processus qui est en cours actuellement d'évolution. Mais on aura, comme je vous le dis, un processus différent. Alors, est-ce qu'il y aura toujours le Parti communiste ? Je ne peux pas vous le dire dans 20 ans. Ce sera peut-être le Parti de Chine, avec différentes tendances. Mais il y aura quand même cette structure, à mon avis, unitaire, qui favorisera l'harmonie et qui essaiera toujours d'empêcher la discorde au sein de la Chine, même s'ils ont des idées opposées.
Il est sûr qu'il vaudrait mieux qu'il n'y ait pas de discorde pour qu'il puisse être en 2030 une superpuissance, ce qu'il vise de toute façon. Et pour terminer, quel conseil donneriez-vous aux Français pour comprendre la Chine en 2 minutes 30 ?
En deux minutes, ou en quelques règles. Écoutez, il y a des règles d'or. Hein. Je crois pour d'abord, on dit souvent, mais c'est pas faux du tout. Si vous faites un voyage d'affaires en Chine, ne vous inquiétez pas. Par exemple, si vos amis dorment pendant un congrès, etc. Mais ne mélangez pas les choses. Ne mélangez pas les choses. Le repas avec les Chinois est un repas amical. Ne parlez pas d'affaires. Évitez surtout de faire perdre la face aux Chinois, parce que les Chinois n'aiment pas perdre la face. C'est très, très, très important. Beaucoup plus important que chez nous. De même que les Chinois n'aiment pas vous faire perdre la face. Donc, essayez d'avoir des attitudes mesurées. L'amitié aussi, ou les rapports, ou le travail avec la Chine, c'est d'abord avoir des réseaux, des amis, des copains, des copines chinoises. Et puis, c'est également agir avec le temps et être patient. Donc la Chine vous est ouverte pour ceux qui veulent aller en Chine, mais il faut avant tout la découvrir dans sa simplicité, ne pas se contenter de rester dans son 3, 4 ou 5 étoiles éventuellement, prendre son sac à dos ou son sac à main, mais en tout cas parcourir avec simplicité cette Chine qui est fabuleuse.
Pierre Picard, merci. Bruit de Chine sur Radio Campus 106.6 jusqu'à 13h. Nous écoutions un entretien avec Pierre Picard, docteur en géopolitique, spécialiste de la Chine contemporaine et auteur de La Chine dans 20 ans et le reste du monde, demain tout chinois, paru aux éditions Favre. Juste après la musique, rendez-vous avec André Labat et Sun Yat-sen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.